What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded,
sir.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dice? Come fa che dice?
Bienvenue aujourd'hui dans Cinémascope à 12h10 sur fréquence 7 ou 17h10 si vous nous suivez lors de la seconde diffusion. Dans Cinémascope, nous allons parler de deux longs métrages qui arrivent sur les écrans du navire, où ils y sont d'ailleurs depuis mercredi. C'est Reprise en main de Gilles Perret ou encore Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan. Et puis comme c'est les vacances, du moins presque, ça va se terminer dans quelques instants. Je suis sûr d'ailleurs qu'on est en vacances si vous nous suivez en rediffusion. Je dis ça pour le jeune public, et qu'il fait un temps exécrable, c'est le moment ou jamais d'aller au cinéma. Donc on va parler d'un film jeune public qui arrive sur les écrans, Samouraï Academy, et ce sera avec Julien. Bonjour Julien.
Bonjour.
Didier est avec nous aussi, bonjour Didier.
Bonjour.
Et Olivier, bien entendu, toujours présent au micro.
Bonjour à tous.
Sylvain, la technique, bien entendu, qu'on salue, s'il le peut répondre.
Salut.
Il le peut. On lui fait faire de l'exercice, le micro est très haut. Alors, on va parler immédiatement de Samouraï Academy. On va démarrer avec le jeune public qui a la chance d'être en vacances pendant 2 semaines. Qu'est-ce qu'on était bien quand on était jeune. Julien, Samouraï Academy, qu'en dire?
Eh bien, Samouraï Academy, alors c'est un film d'animation déjà, c'est une information, voilà, et dont les héros sont
des chiens, des chats,
enfin voilà, en tout cas ils ont un visage animal, et on les découvre en fait dans ce film-là. Alors le pitch se tient en deux mots, c'est un univers où il n'y a que des chats. C'est un univers qui est, on va dire, le Japon médiéval, donc du coup avec des samouraïs, des ninjas, etc. Et tous ces personnages-là sont des chats. Donc
des
chamouraïs, en fait. Tout à fait. Mais alors du coup, il y a beaucoup de jeux de mots avec les chats, donc tout au long du film. Et il y a également un chien qui lui débarque sur l'île, en fait, sur le Japon, on va dire médiéval, mais qui lui vient d'une autre contrée apparemment, et qui lui, son rêve, c'est devenir justement samouraï. Et voilà. Alors on va retrouver un peu tous les poncifs du genre, c'est-à-dire que il va trouver quand même quelqu'un qui va le former à être samouraï, qui est un vieux bourru, qui est pris un peu de boisson, mais qui va arriver le former. Et c'est quelque chose aussi, sur la différence, comment accepter l'autre, etc. Mais j'avoue que moi j'ai pas boudé mon plaisir non plus, parce que même si ça enfonce beaucoup de portes ouvertes, on est quand même il y a des choses aussi qui sont assez marrantes. Il y a des références au cinéma,
il y a plein de références.
Et en particulier qui sont plutôt malines, et il y a West Side Story à un moment donné, parce qu'il se retrouve dans le monde du New York, etc. Il y a plein de passages comme ça qui sont assez sympathiques pour nous. Beaucoup de jeux de mots qui sont là aussi, je pense, à destination des parents, plus que pour les enfants, mais qui fait que, quand on est adulte, même si on est un peu, on a déjà vu ça autre part, on va dire, au niveau du scénario, on ne boude pas son plaisir à découvrir, à rigoler, et puis je pense que quand on y va en famille avec ses enfants, c'est tout à fait regardable, et on passe, je pense, un bon moment.
D'accord, donc c'est pas West Side Souris, hein, c'est bien West Side
Story. Alors, je pense qu'il y a aussi les jeux de mots, il y en a énormément dedans.
Donc, j'en ai rajouté.
Assez rigolo, quoi.
Samouraï Academy, donc sorti le 12 octobre dernier, à voir par exemple du côté du navire demain. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise?
Non, mais tu arrives à me faire rire, mais je le rends.
À 14h15, donc demain et dimanche à 15h, il est aussi à l'affiche du cinéma Le Vivarais à Privas, demain 15h, dimanche 17h30. Et il le sera la semaine prochaine partout, à Cruas, au Teil ou encore à Rosières. Donc voilà une idée de sortie jeune public en famille. Voilà. On passe au second film. On va écouter tout d'abord la bande-annonce. On va découvrir le premier long-métrage fiction de Gilles Perret. Ah bon, tu l'as pas. Là, bah, ah d'accord, c'est reprise en main, pardon.
Merci,
merci, je n'avais pas stipulé.
Il faudra bien qu'ils se décident à la changer, cette putain de machine.
Ils vont vendre, Cédric.
Ce serait un fonds de pension anglais ou américain.
Apollo est prêt à signer. Pour 60 millions.
C'est super.
Apollo, c'est les pires, non?
Et toi? Toi, ça te fait rien de te faire du fric sur la vie des ouvriers?
Non mais attends...
Tu as choisi ton camp, toi, hein?
Berthier va être acheté par des charognards. Moi, je peux pas laisser faire ça. Et pour ça, j'ai besoin de vous. On va monter notre propre fonds d'investissement.
Donc toi, t'es financier maintenant. T'as bien l'allure là, avec tes chaussures de marche.
Merde!
Le projet Berthier prend l'eau.
Ah bah, il est en forme, le conseil d'administration.
Et pour ça, on a juste besoin d'une petite mise de départ de 5 millions.
5 millions.
À bientôt.
Tout à fait.
Bientôt, merci.
Bon, au revoir.
Si vous réussissez à l'avoir à 45 millions, c'est le coup du siècle.
Attends, mais qu'est-ce que t'as gagné, toi?
Le frisson.
Vous avez un concurrent? Très bien. Vous montrez que vous êtes les meilleurs.
Mais t'inquiète, hein, on va se battre.
Et le prix peut s'effondrer. Mais ça, vous iriez pas sans moi. Hein.
Ouais,
alors, on s'est fait prendre pour des cons. Ouais, un peu. Oui, parce que je suis moi-même du Serail.
Donc, si tu veux jouer dans cette cour, je pense qu'il va falloir t'endurcir un petit peu. Mais on va les niquer.
Mais non, les gars, mais on va se planter.
Toi, t'aurais pu te battre, t'aurais pu sauver tout le monde et t'as rien fait.
Je vais me faire ce que arrête.
Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de travailler par amour de l'humanité. Ah.
Gilles Perret avec Pierre Deladonchamp, Laetitia Doche, Grégory Montel, voilà le documentariste Gilles Perret qui signe sa première œuvre de fiction, Didier.
Oui, tout à fait. Alors, on peut rappeler un peu déjà ses précédents films documentaires. Alors, Gilles Perret, il est pas mal connu des Albenaciens et des Ardéchois, puisqu'il est venu au moins deux fois à Aubenas, voire trois fois. Premier et second film, c'était Walter, Retour en résistance, et Les jours heureux, qui étaient deux films qui revenaient sur le Conseil national de la résistance. Vraiment très, très intéressant. C'est des films très pédagogiques. Et puis ensuite, il avait fait La Sociale, une histoire de la Sécu. Et après, on l'a retrouvé avec François Ruffin, puisqu'il a co-réalisé Je veux du soleil, dans un premier temps, le documentaire sur les Gilets jaunes, et Debout les femmes, plus récemment, sur les aides à domicile. Voilà. Donc, quelqu'un de très engagé socialement, qui effectivement la passe à la fiction. Alors, c'est pas un grand, grand film, hein, c'est sûr, mais c'est un film tout à fait honorable et intéressant. Donc, nous sommes chez nos voisins, puisque c'est un film Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, nous sommes dans une petite entreprise de décolletage des Alpes. Alors, le décolletage, comme il est spécifié dans le film, n'est pas une fabrique de soutien-gorge, mais c'est vrai, c'est dit, c'est expliqué, mais une usine de mécanique de précision. Et donc... C'est un peu la même chose, non? Si on veut.
Ça dépend de la mécanique.
C'est plus métallique, là. C'est plus, voilà.
Et au moment où le film commence, cette entreprise, qui, ma foi, va pas si mal que ça, va être revendue à un fonds d'investissement, Vautour. Évidemment, ça ne va pas sans ce qu'on appelle le dégraissage, etc., etc. Et personne ne sait plus où il va. Et donc, un des membres du personnel refuse d'accepter ça, s'intéresse un peu à la finance en disant « mais comment ça se fait que... » voilà. Et il comprend comment ça fonctionne, un fonds d'investissement qui rachète une entreprise. Alors, en deux mots, t'as pas de sous, mais tu veux racheter une entreprise. Alors, il faut quand même que tu trouves à peu près 10% du montant. Et une fois que tu as ces 10%, tu vas avoir des banquiers, tu empruntes le reste, c'est l'entreprise qui rembourse le crédit, et quand le crédit est remboursé, tu revends l'entreprise et tu fais le jackpot. Et donc il se dit, mais si y a des tas de gens malins comme ça qui fonctionnent et qui font du fric avec ça, pourquoi nous, on ne créerait pas notre propre fonds d'investissement pour racheter notre usine ? Et donc le film, c'est cette aventure de trois copains, un banquier, le garçon qui travaille dans l'usine,
un autre ami qui, lui, a sa petite entreprise et qui vont jouer les hommes d'affaires. Donc, c'est assez burlesque à certains moments. C'est évidemment très utopique parce que je ne suis pas certain que dans la réalité, ça puisse se passer comme ça. Mais en tout cas, c'est une belle aventure qui nous est montrée ici. Ça fait plaisir, on se fait plaisir, c'est-à-dire que pour une fois, il se passe quelque chose de l'autre côté de la barrière. Voilà, alors après, évidemment, c'est pas un grand film de cinéma, mais on peut quand même, tu l'as dit tout à l'heure, on peut quand même retenir le casting, qui est quand même pas si mal, puisque Pierre Deladonchamp, donc, qui est le rôle principal, qui... On a vraiment l'impression que lui, c'est un ouvrier d'usine, quoi. Il y croit, c'est assez superbe, sa prestation, Laetitia Doche. Et Finnegan Oldfield, qui joue le petit trader salopard, quoi. Voilà, on peut dire comme ça. Et qui est excellent également dans ce rôle.
Très bon, ouais. Oui, je rebondis sur ce que tu dis. Le trader est vraiment très, vraiment excellent parce qu'on le déteste bien. Il est bien adepte des coups tordus, donc c'est assez. Après, je te rejoins. Pas un grand film, mais quand même, on est quand même vraiment. On est pris par l'histoire. Effectivement, moi, je m'attendais à pire en fait. Finalement, j'étais vraiment agréablement. Non, mais parce que à passer du documentaire à la fiction, enfin voilà, c'est presque pas les mêmes métiers parce que. On recherche pas du tout la même chose, et là franchement je trouve qu'il a franchi le pas vraiment. Donc c'est un premier film de quelqu'un qui a déjà une carrière dans le documentaire, mais pour un premier film c'est tout à fait honorable. Et oui, effectivement, ça fait plaisir de voir un petit peu les personnages d'être de l'autre côté de la barrière. Oui, effectivement, où il y a cette utopie là il y a quelque chose aussi pédagogique, moi je trouve, moi j'ai appris des choses, quoi. Je me suis dit, ah bah tiens, ça, c'est comme ça qu'on rachète des choses, et que ça m'a conforté dans l'idée que c'est quand même un monde de la finance, un monde quand même assez horrible. Alors tu disais que un de ses copains est banquier, mais c'est pas le banquier d'affaires, hein. C'est lui, il est banquier dans une petite agence d'un village, et donc
l'école d'Orion,
c'est tout à fait là. Il se fait un peu virer parce qu'il est pas non plus au top, on voit bien qu'il gravit pas les échelons. Voilà,
il va aussi aller farfouiller dans les comptes où normalement on va pas.
C'est un peu les pieds nickelés, votre truc là.
Non, c'est tout à fait. Il y a les trois pieds nickelés. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez marrant. Et puis il y a un autre versant, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est sa façon effectivement de filmer en fait le travail et les usines, etc., etc. Lui, il vient du documentaire, ouais, c'est aussi son histoire personnelle à lui, puisqu'il a travaillé dans ces usines-là et puis il a grandi dans ce milieu-là. Et du coup, c'est plutôt, on va dire, un hasard qu'il fasse des films aujourd'hui. C'est ce qu'il dit, hein, lui-même. Mais du coup, il a vraiment, on sent qu'il y a un vrai amour pour ça. Il y a un vrai pour le travail d'ouvrier et ce monde de l'usine. Donc, il décrit vraiment et qu'il filme vraiment bien les machines, tous ces appareils-là. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est vraiment un chouette film à voir en ce moment. Là il pleut, vous faire plaisir, et puis qui donne un peu la patate, quoi. On sort de là, on va renverser le monde et on va partager tout l'argent des banquiers avec tout le monde.
Ah bah j'allais dire t'attends que je sorte, mais non, finalement je vais rester.
Voilà. Donc, Reprise en main de Gilles Perret à découvrir au Navire aujourd'hui à 18h et à 21h. Demain samedi, 18h15, 21h également. Voilà pour ce second film. Et bien, si vous le voulez bien, nous allons passer au biopic de la semaine, ou le biopic du mois de cette fin d'année, Simone, Le Voyage du siècle.
Vous pouvez baisser un peu la lumière, s'il vous plaît.
Quand vous voulez.
Comment définir la mémoire? Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain.
Simone!
Papier!
Nous sommes faits de ce qui nous a précédés.
Vos papiers.
Et pour partie, nous engageons l'avenir.
Pourquoi il m'attaque comme ça?
Il ne supporte pas ce que tu représentes.
Comment ne pas être conscient de la nécessité de nous unir pour nous épauler les uns les autres et résister ainsi à tout retour du totalitarisme?
Il faut rester ensemble. Rien ne doit nous séparer.
Chérie, viens, viens, viens.
On n'est plus là-bas, Simone. On est revenu.
Je suis fière de toi.
Et maman serait fière de toi.
L'espoir.
Je félicite Madame Veil pour son élection.
C'est dans l'Europe que je le place. L'Europe qui a surmonté la haine et la barbarie.
Votre travail, Madame Veil.
Ma vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation.
Le FN veut mettre le bordel, il faut partir.
Je reste.
Vous ne me faites pas peur. J'ai survécu à pire que vous.
J'avais ton âge. Tous les jours, je vois maman. C'est ma force. Combat. C'est elle. Pour elle.
Simone, le voyage du siècle, donc biopic autour de Simone Veil, la femme politique. Olivier.
Oui, pas la philosophe.
Oui, pas la philosophe, c'est mon singulier stipule.
Oui, Simone Veil, le voyage du siècle, donc le titre déjà est assez modeste. Quand on connaît les personnalités qui ont traversé le XXe siècle. Oui, alors c'est un film d'Olivier Dahan. Alors on peut déjà peut-être parler du film comme objet. Avant même d'apprendre que c'était son métier cadreur à Olivier Dahan, eh ben, je l'avais deviné d'une certaine manière. Parce que le film, c'est cadre qui se succède comme ça. L'ensemble est monté d'une manière assez difficile à suivre, je trouve, puisque... On balaye les différentes périodes hein, de la vie de Simone Veil, de l'enfance, la prime enfance, jusqu'à la vieillesse, au moment où elle écrit son autobiographie. Donc on a forcément des actrices différentes, Elsa Zilberstein pour la maturité, et puis Rebecca Marder pour la jeunesse. Et puis une enfant dont je n'ai pas retrouvé le nom, qui joue Simone Veil, donc enfant. Avec une photographie assez diverse, mais qui est toujours racoleuse, en fait, d'une certaine manière, parce qu'on a une manière de filmer les lieux de l'intimité personnelle, les lieux de souffrance collective, hein, la prison, les hôpitaux, les camps, la marche forcée, enfin, etc. Et puis aussi de filmer le milieu politique, le Parlement européen, enfin, il y a des images, je suppose, qui sont d'archives, etc. On a même des séquences sur un kibbutz un peu babacool, là... en Israël, etc. C'est à chaque fois une image un petit peu flatteuse, comme ça, un petit peu, enfin flatteuse, accrocheuse, voilà, d'une certaine manière. Olivier Dahan, là, fait le troisième élément d'une trilogie, on peut penser qu'il s'arrêtera là, parce qu'une trilogie, c'est bien, finalement, hein, de portraits féminins. Il avait fait La Môme, hein, avec Marion Cotillard. Il avait fait Grâce de Monaco, avec Nicole Kidman. Alors, on ne sait pas si Elsa Zilberstein veut faire la troisième, en quelque sorte. Sera-t-elle oscarisée comme Marion Cotillard pour Simone, le voyage du siècle? J'en doute. Surtout que, justement, il y a Rebecca Marder qui fait beaucoup d'ombre à Elsa Zilberstein sur le pénible chemin qui mène à la stérilisation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a de la concurrence tout de même. Alors, on peut citer Olivier Dahan qui dit que faire le portrait cinématographique d'une personne est une façon d'aborder l'histoire du pays et d'une époque, de développer des thématiques sociales et psychologiques, de réécrire une histoire avec un angle de vue spécifique et personnel. C'est en fait l'inverse d'un biopic. Les producteurs du film l'ont compris et m'ont fait confiance dans ce processus particulier. Comme quoi, il ne faut peut-être pas accorder sa confiance à tout le monde, parce que finalement, ce que nous dit Olivier Dahan, c'est qu'il va avoir une manière très très personnelle de traiter la vie de Simone Veil, en se basant, bon, c'est vrai, essentiellement sur l'autobiographie de Simone Veil, hein, que j'ai lu il y a quelques temps. Et puis, il va avoir une façon très personnelle également d'interpréter l'histoire de la 5e République ou de la 4e et de la 5e République. En fait, l'histoire européenne de la naissance de Simone Veil en 1927 jusqu'à son élection comme présidente du Parlement européen en 2017 et jusqu'à sa mort même pratiquement en 2017. Non, son élection en 1979. Oui. Et la apparition de son autobiographie en 2007, 10 ans avant qu'elle nous quitte. Moi, je dirais qu'effectivement, on est un petit peu dans le contraire du biopic, dans la mesure où on est littéralement dans la géographie, hein, c'est-à-dire la biographie d'un saint. Et pour avoir un peu travaillé les hagiographies dans mes études d'histoire des idées, etc., il faut dire que tous les éléments de l'histoire d'un saint sont là. La précocité de la vocation, avec le petit côté sulfureux qu'a la vocation primaire d'un saint, dans la mesure où il est forcément très égotiste, il est favorisé par sa famille, enfin, etc. Elle est vraiment la préférée de sa mère, donc elle est déjà portée comme ça vers son destin de sainte. Et alors effectivement, dans sa carrière, on a tout le parcours du saint, la visite aux malades, la visite aux prisonniers, la visite, et puis on a les épisodes providentiels, n'est-ce pas, quand elle arrive au camp, elle tombe heureusement sur un homme qui lui demande son âge, elle répond qu'elle a 16 ans, elle lui dit, c'est dans la biographie, hein, dans son autobiographie, et il lui dit que t'as 18 ans, et elle fait bien, parce que sinon c'était directement les fours crématoires, malheureusement. Voilà, au bout d'un moment, on se demande si on va pas voir Simone Veil marcher sur l'eau, un petit peu, parce que vraiment, elle est portée comme ça par la grâce, un peu tout le long de... Et alors, moi, encore une fois, c'est pas gênant. En plus on a le droit d'avoir son admiration, son élection pour une personne qui, il est vrai, a quand même apporté des choses au cours de sa vie politique. On pense évidemment à la loi de 74 sur l'IVG, bon, etc. Il y a d'autres choses, hein. Symboliquement, le fait que ce soit une femme qui soit la première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel, c'est pas rien non plus, même si ça reste très symbolique. Enfin, disons qu'il y en a un petit peu beaucoup autour de la sainteté laïque. Alors, on insiste bien sur la laïcité, hein. C'est une valeur qui est très ancrée dans la famille Jacob, la famille donc de Simone Veil. C'est une valeur qui est également très ancrée dans la famille de son mari, la famille Veil. Et donc, c'est la géographie laïque de sainte Simone Veil. Ce qui, moi, me gêne un petit peu aux entournures, c'est qu'en regardant un tel film, on a l'impression parfois, mais Didier va certainement mesurer un peu les choses, mais... j'ai eu parfois l'impression d'être soumis à une espèce de contrainte affective, c'est-à-dire comme si on nous subtilisait, retirait le droit d'avoir un regard critique et de se poser quand même un certain nombre de questions sur la carrière de Simone Veil. On a envie de se poser des questions sur la manière dont elle a voulu qu'on traite l'après-guerre. Elle a quand même fait des choix très précis, il fallait pas évoquer la collaboration, elle était pas non plus très tranquille avec les résistants qui reconnaissaient pas le prix payé par les déportés, elle aimait pas trop visiblement les communistes. C'est vrai que les communistes dans la résistance, il y a eu quand même deux temps, il y a eu l'époque du pacte germano-soviétique, mais après quand même ce sont les communistes qui ont fourni la majeure partie, enfin au moins la moitié du personnel de la résistance. Donc il faut, enfin tout ça, ça s'écoute, ça se dit, me semble-t-il. Au niveau de la liquidation, hein, de la libération et de l'après-guerre, ça me paraît, enfin il me semble qu'il y a un certain nombre de questions à se poser. On a envie d'en savoir un peu plus sur le rapport de cette personne avec le religieux, parce que son aveu de laïcité passe parfois un peu pour une manière de s'échapper de la question religieuse. On le voit au moment du vote, hein, de l'IVG au Parlement, où elle est soutenue par un catholique important, mais bon, elle est très contente que ça soit voté, mais elle en dit pas plus, voilà. J'avais noté aussi quelques petits manques du côté des réalités de la vie politique concrète, quid de la réalité de la vie politique, des rivalités, des soutiens mutuels qu'on s'apporte, enfin, etc. Simone Veil a quand même toujours été dans le camp, on va dire, du libéralisme économique assez. On parlait tout à l'heure de reprise en main. Elle est quand même, d'un point de vue politique, de ce côté-là. Et ça, évidemment, il n'en est pas tellement question dans la géographie. Alors moi, c'est un petit peu ça qui me gêne. C'est qu'on fait comme si on n'avait pas le droit de dire « Oui, mais attends, c'est pas aussi simple, quoi. C'est pas aussi gracieux que ça, au sens... au sens premier du terme. » Et donc, à l'arrivée, je me demande si ce film sert autant qu'il aurait pu le faire la cause des femmes, finalement. Parce que, quid de l'égalité homme-femme à de tout autre niveau de la société. Parce que, bon, son mari est quand même un haut fonctionnaire sorti de l'ENA, elle est magistrate, elle est ministre, elle est etc., etc. On aimerait bien en savoir un peu plus de ce qu'elle pense de l'égalité de salaire quand on est cheminot ou secrétaire voilà, dans un cabinet d'avocat, quoi. Voilà. C'est un petit peu le bémol. Je m'attendais à un peu plus... surtout après avoir lu l'autobiographie de Simone Veil.
Didier.
Oui, alors moi je suis un peu moins sévère. Alors je vais commencer par parler un peu de cinéma. Donc là, pour moi, c'est ce qui pêche vraiment le plus. Tu l'as dit, le film est très déstructuré. Enfin, il est monté comme une mosaïque. On n'arrête pas de faire des sauts dans le temps. J'en vois pas vraiment l'intérêt ici. Ça aurait pu être tout à fait intéressant, mais j'ai pas vraiment compris ce qui amenait une époque sur une autre et de revenir, etc. Donc le réalisateur dit que lui, il voyait ça comme des rimes. Mais j'avoue que moi, je suis resté un peu extérieur à ça. Tu as raison également, là, quand tu parles de la lumière du film où chaque époque, alors en particulier, en particulier toutes les séquences sur Auschwitz, sur les camps, c'est un peu convenu, quoi. Il y a quelque chose d'un peu facile. On est dans presque le noir et blanc et tout. On se dit que bon, peut-être ça aurait mérité quelque chose d'un peu plus subtil. Et puis surtout, deux choses, moi, qui m'ont énormément hérissé, je veux dire, sur le côté cinéma, toujours, c'est la bande-son, la musique, qui parfois est... C'est peu de dire qu'elle est envahissante, quoi. Elle est tonitruante et c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Et puis surtout, la pauvre Elsa Silberstein, qu'on a affublée de prothèses. Alors je ne sais pas comment laisser passer un truc comme ça. Alors qu'en plus, elle fait partie des gens à l'origine du film. Enfin, elle est très, très investie
sans elle,
dans
y a pas
ce
de film.
Film.
D'un point de vue production, sans elle, il n'y a pas de film, apparemment.
Voilà, et autant, effectivement, tu l'as dit également, Rebecca Marder offre une très, très belle prestation. Elle est bien dirigée, etc. Mais alors, là, j'ai vu ça et ça m'a fait sortir un peu du film pendant toute la durée de la projection parce que je ne voyais que ça, quoi. C'était... Voilà. Au-delà de ça, c'est une thématique. Alors, le voyage du siècle, moi, je ne l'ai pas pris comme Simone, le voyage du siècle, mais, et le film est également ça, un voyage dans le siècle.
Oui,
c'est-à-dire qu'on a quand même une espèce de survol, alors rapide, évidemment, mais du XXe siècle, de la Troisième, Quatrième, Cinquième République, des choses très fortes qui se sont passées, en particulier la Deuxième Guerre mondiale et son cortège d'horreur. Alors, le film, bon, évidemment... met en scène les chapitres les plus connus de sa vie, mais en même temps, bon, tu as raison de dire qu'on n'évoque pas dans ce film, par exemple, le libéralisme de voilà. Mais est-ce que c'est très important dans le sens où ça, il y a plein de gens qui ont été libéraux, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait voter la loi contre l'avortement, voilà. Et donc je pense que le film s'attache quand même aux choses les plus essentielles et les plus intéressantes qui ont fait avancer la société, quoi qu'on en dise. Et moi, je j'avais pas lu la biographie de Simone Veil, donc je connaissais comme tout le monde effectivement son action sur l'avortement. son sens développé sur l'égalité des femmes et tout, mais par exemple, j'avais oublié, ou j'ignorais même peut-être, que dans les années 60, elle est intervenue, elle était haute magistrate, elle est intervenue contre les conditions de détention dans les prisons françaises qui étaient absolument épouvantables.
Et algériennes.
Voilà, et aussi algériennes, c'est-à-dire où elle a fait rapatrier en métropole un nombre très important de femmes algériennes et d'hommes algériens, pour la plupart issus du FLN, et dont la vie même était menacée dans les geôles françaises en Algérie. Donc c'est quand même des moments très très forts. Son action, d'une façon générale, envers la cause féminine a été quand même très très forte. Alors il faut aussi resituer dans l'époque. Dire qu'aujourd'hui, effectivement, peut-être que Simone Veil verrait ou aborderait les choses de façon différente dans les années 60-70. Est-ce que le mode le plus important de s'occuper de la cause des femmes était, par exemple, l'égalité des salaires? Je pense qu'on n'en était pas encore là. On en était presque au droit de vote, quoi.
Moi, je parlais du film, hein, de l'action du film. Pas tellement de l'action de Simone Veil, qui est incontestable.
Voilà, et le film remet aussi, ça, j'avais pas oublié, en lumière, ces prises de position très très fortes pendant la guerre de Bosnie, où on a retrouvé des camps de concentration. Donc voilà. Et alors ça, c'est pas dans le film, mais quand on cherche un peu, je m'étais dit, mais alors, est-ce que c'est une femme de gauche, est-ce que c'est une femme de droite, Simone Veil? Et quand on lui a posé la question, elle a répondu un peu à côté, puis en même temps, elle a répondu en plein dedans aussi, en disant, pour certaines choses, je suis de gauche, pour d'autres, je suis de droite. Et je pense que c'était effectivement quelqu'un de socialement plutôt à gauche, d'une façon générale, mais très très libéral dans le fond de sa pensée et de son action. Voilà, donc c'est effectivement pas le film, moi, que j'aurais souhaité. J'aurais souhaité quelque chose peut-être d'un peu plus concret et tu l'as dit, d'un peu moins géographique, parce que là on est vraiment uniquement dans le côté très très positif. Mais bon, le film existe, il a le mérite d'exister, et je pense que ce type de personnage historique, plus on en parlera, et mieux ça vaudra, en particulier par les temps qui courent.
Simone, Le Voyage du siècle, un biopic qui n'en est pas un, alors finalement.
Ah bah c'est lui qui le dit, moi je sais pas.
Voilà, on va se faire une idée en le voyant, par exemple, aux 3 séances, aujourd'hui comme demain, au cinéma Le Navire. Il sera la semaine prochaine sur les écrans du Foyer à Rosières, du Vivarais à Privas, il sera même du côté de Cruas et du Teil. Voilà pour les 3 films dont on voulait vous parler. Alors j'ai omis tout à l'heure de signaler, lorsque nous étions dans les moments jeunes publics, qu'il y a des ciné-goûtés proposés par la Maison de l'Image dans cette semaine qui arrive, mercredi comme jeudi, c'est à chaque fois à 14h30, mercredi ce sera du côté de Tueil à la Vesprade, jeudi à Lussas, donc 26 et 27 octobre, 14h30, et vous verrez quoi? Eh bien vous verrez La Cabane aux oiseaux de Célia Rivière, ça se voit dès l'âge de 3 ans. Et puis je note déjà, même si c'est pour la fin de semaine suivante, mais il faut se préparer parce qu'il y a pas mal de choses à découvrir, je note que le Ciné 7 à Ruons va proposer 4 jours sorciers, justement, autour de ce cinéma, et donc autour de Harry Potter. C'est-à-dire qu'à partir du vendredi 28 octobre 13h30 et jusqu'au lundi soir, dernière projection à 17h, vous pourrez voir les 7 longs métrages autour de Harry Potter, dont le dernier en plus, qui est en 2 parties, hein, Les Reliques de la Mort, partie 1, partie 2. Donc ça fait 8 projections autour de l'histoire. Harry Potter à l'école des sorciers pour le tout premier jour, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Enfin, je pense qu'ils arrivent en plus dans l'ordre de production, ce qui serait très logique. Et au-delà de ça, il y aura plein d'autres animations avec des ateliers pour bah, créer sa petite baguette magique, etc. etc. Donc une bonne idée qui va durer 4 jours à partir du 28 octobre et jusqu'au 31. Voilà, 4 journées pour le jeune public et les moins jeunes, parce que deux fois, se refaire un petit Harry Potter sur grand écran. Why not? Why not? Alors, d'autres films encore aussi à découvrir. On en parle rapidement. On en a déjà beaucoup parlé sur ces antennes. Ce soir, à Lussas et Tueil avec la Maison de l'Image. À Lussas, à 20h30, c'est La Nuit du 12, dont on a déjà
très,
beaucoup
très beau film. Parlé.
Et Compromat, ça, ce sera à Tueil également ce soir. Film dont on avait déjà dit, Didier notamment, hein, le plus grand bien, je crois.
Ou grand bien, enfin bien. Pas bien. Grand, grand, pas grand bien, bien mais bien.
Tous les canons du thriller, on va dire, et aussi adaptation d'une histoire, entre guillemets, vraie, hein, comme La Nuit du 12 et puis Simone. Hein. C'est l'histoire de Johann Barbero, qui l'a raconté dans Les Geôles de Sibérie, qu'on trouve en folio, et qui est donc porté ici à l'écran par Jérôme Salle. Un thriller relativement efficace, avec tous les codes du thriller, avec peut-être parfois des invraisemblances un petit peu dépitantes, bon, c'est pas grave, ça.
Non,
ça
puis
passe.
Le film.
On en avait parlé, je crois, Didier.
Voilà, ouais. Le film est honnête en ne se présentant pas comme ce qu'il est. Il se présente effectivement comme un thriller à partir d'une histoire vraie absolument épouvantable. Et dans ce sens-là, ça fonctionne très très bien. Et Gilles Lelouch est parfait, quoi.
Oui. Voilà, et ben écoutez, je vais juste vous dire que dans 4 semaines, mais ça vous en êtes sûr, je suis sûr que vous le savez, dans 4 semaines vont débuter les nouvelles rencontres des cinémas d'Europe à Aubenas. C'est bientôt, c'est là, tu verras, c'est un truc sympa.
C'est une manifestation aussi.
Ouais. Donc dans une dizaine de salles.
C'est la première année. C'est
non, je crois pas encore, ça va un peu plus loin. Je crois qu'on arrive à 25 ans bientôt, 24e édition, donc 23 ans. 10 salles, les 6 salles du cinéma Le Navire, celle du cinéma Le Quinconce de Vals-les-Bains, ça m'en fait 8, il m'en manque 2, bah c'est Tueil et Lussas. Voilà, donc vous aurez dans les 10 salles un nombre incroyable de films, je pense qu'on est autour des 70 encore une
80,
fois. 70-80, bon bah voilà. Donc c'est dans 4 semaines, on aura l'occasion d'en parler et on croise les doigts, si tout va bien, Fréquence 7 sera au cœur du festival cette année de nouveau, puisque nous n'y sommes pas allés depuis 2019, 2020, Covid, 2021. Hop, de nouveau, on est resté ici, là, on a encore des affiches qui traînent, vous voyez.
Et pour la radio, c'est un grand moment aussi. Enfin, moi,
voilà. Donc à suivre d'ici 4 semaines. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine, au même horaire, 12h10 et 17h10. Ici, comme chaque vendredi, avec de nouveaux films, même si bon, ça rame un peu dans les nouveaux films qui arrivent sur les écrans de la région. C'est un peu voilà, c'est les vacances en même temps. Hein. Donc, on va avoir beaucoup de films jeunes publics encore à vous mettre sous la dent. Allez voir tout ça sur les différents sites internet des cinémas. Nous, on vous salue, on vous remercie, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.
Bye bye.
Au revoir.
Voilà. Oui, ça va. Alors, la caméra.